voix nue. Cette semaine, hommage à Marceline Loridan-Evans, disparue en septembre dernier. En 2012, elle s'entretenait avec Gila Lustiger. Ce soir, chronique d'un été algérien.
Marceline Loridan-Evans. Marceline Loridan-Evans.
Oui.
Vous êtes cinéaste, actrice, écrivain, féministe, juif, enfant caché, résistante, puis déportée numéro 78750, survivante à Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen et Theresienstadt, porteuse de valises, une de 343 salopes signataires du manifeste de 71, amatrice de whisky, de vodka, d'absinthe, de hash et de bebop, collaboratrice, puis épouse de Yori Evans.
Yoris,
le grand réalisateur de films documentaires. Vous êtes né le 19 mars 28 à Épinal et vous vivez à Paris.
Oui, et j'aimerais d'abord dire que 78750, ça veut dire en français 78 750.
Oui. Et on s'est arrêté hier à cette image dangereuse de vous en porteuse de valise. Et j'essaye de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie balagane, comme vous dites.
Et de... Balagane qui veut dire bordélique.
Oui.
D'accord.
Et de mettre des dates et des étapes dans votre vie. Donc, à ce moment-là, vous faites en même temps des reportages en freelance pour une émission de télévision qui s'appelle « Nous les jeunes ». C'est quelle période ?
C'est après 61.
D'accord.
Et je suis porteuse de valises en 1958.
Oui.
Alors, après que ce film Chronique d'un été ait été présenté au Festival de Cannes en 1961, je commence à entrer dans un nouveau travail qui est celui qui m'intéresse beaucoup, beaucoup plus que de faire des analyses psychosociologiques.
Oui, avant, vous êtes rhénotypeuse, alors c'est quoi exactement ?
Je rentre dans une société, la première société française qui s'appelle Lauric, dirigée par un des fils de Jérôme Lindon, qui est éditeur, qui est la première société qui va faire du marketing en France.
Ça, c'est votre métier de psychosociologie appliquée.
Voilà. Alors, je rentre comme renéoteuse. Oui. Donc, je rentre là comme pour faire marcher cette machine, qui est très facile. Et d'autre après, je vois ce que les gens font et qui gagnent mieux leur vie que moi, d'aller faire des études statistiques en posant des questions aux gens, oui, non, non, oui. Et je dis, moi aussi, je peux faire ça. Bon, je suis acceptée et je le fais. Et après, je découvre que dans le même lieu, il y a un département de psychosociologie appliquée qui est dirigé par un homme que je connais parce que quelques années avant, il venait toujours manger chez ma mère parce qu'il n'avait pas d'argent. Il avait échappé de la Hongrie.
Donc,
après le 1956, excusez-moi, et je dis, moi aussi, je peux le faire. Et je lui dis, prends-moi à l'œil, donc, essaye-moi.
Donc, vous devenez psychosociologue sans diplôme, avec un diplôme d'Auschwitz.
Voilà, toujours avec le même diplôme. Et tout d'un coup, je gagne beaucoup plus d'argent. À ce moment-là, je veux créer un syndicat. Je me suis chassée de cet endroit et je vais dans une autre société qui me prend tout de suite, où je gagne 10 000 francs par semaine, une somme folle. J'ai qu'à travailler 10 jours, j'ai pas besoin de travailler plus.
Et à ce moment-là, un événement majeur historique et aussi dans votre vie, je raccourcis.
Je raccourcis. Je vous en prie.
62, l'indépendance d'Algérie. Vous êtes à l'époque avec, je raccourcis encore, vous êtes à l'époque avec vos amis algériens que vous avez soutenus sans rentrer chez eux en Algérie, leur garçon avec qui vous vivez à l'époque, Jean-Pierre Sergent, qui est d'ailleurs, entre guillemets, 12 ans de votre cadet, est là-bas aussi, et puis Vous décidez. Non, 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 je résume votre vie parce que
oui,
votre
oui,
vie
oui,
est très
oui,
riche.
Je comprends.
Et vous, vous décidez donc de les suivre et d'aller voir comment ça se passe là-bas, l'indépendance d'Algérie.
Oui, je travaille déjà dans le cinéma quand même.
Oui.
Depuis quelques mois, je travaille pour cette émission Nous les Jeunes.
Oui.
Et puis, j'ai un copain qui prépare un film. Il me demande de chercher des personnages dont il a besoin. Et puis, je trouve les bons. Je travaille pour Jean Herman qui prépare un film qui n'est plus du tout devenu cinémaste, mais écrivain par la suite. Et qui me demande de trouver les gens qu'il lui faut. C'est les bonnes gens aussi. Je suis dans tous les milieux. Je circule partout. Et je sais le faire spontanément, presque. Et donc, après avoir travaillé en Espagne, à San Sébastien, au retour d'un film sur lequel je suis assistante, un court-métrage, sur les courses de taureaux, je reviens à Paris, je m'aperçois que Jean-Pierre est parti et tout, je parle naturellement après la signature des accords d'Évian en Algérie pour voir ce que c'est que ce pays, quoi.
Et puis, vous décidez alors là-bas de filmer le premier jour de l'indépendance. Né alors le film « Algérie année zéro ».
Je trouve les moyens de faire un film. C'est le bordel partout là-bas. La télévision française, elle est en vrac. Ou la télévision algérienne, plutôt, est en vrac. Les caméras traînent partout. On peut très facilement prendre une caméra et filmer. Mais il me manque un opérateur, un caméraman. Mais par générosité, parce que les gens me connaissent dans cette profession déjà.
Marceline, alors le matériel est disponible à la télévision française d'Alger. Mais qui vous donne l'argent?
Ah ben voilà, alors l'argent, c'est un ami à moi qui est très riche, auquel je téléphone et qui m'envoie de l'argent pour acheter de la pellicule. Et on est une bande, il y a Jean-Pierre Sergent, il y a Jean-Pierre Mirouz qui est ingénieur du son. Il y a ce garçon qui arrive, Bruno Muel, qui ignore tout de l'Algérie et même du peuple algérien, qui arrive. Et puis comme ça, on a une équipe. C'est pas un grand film. C'est un premier film fait avec une certaine enthousiasme. Et puis moi, j'ai des contacts, et Jean-Pierre aussi, parce que je connais des Algériens. Et c'est pas rose là-bas. On a vu même des lynchages que j'ai pas montés dans le film.
Marceline,
vous comprenez, il faut comprendre que ça se fait... Par hasard, le problème c'est est-ce que tu te saisis des hasards qui passent ou pas?
Vous dites dans un autre interview, plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard, sur un film dont on va parler, le film sur le Vietnam, que toute votre vie, vous voulez montrer ce que les actualités ne montrent pas.
Absolument.
Donc là,
toujours.
Là, vous êtes là quand même à un moment historique de l'Algérie. Et je vous pose cette question-là, car la guerre d'Algérie est devenue depuis l'enjeu d'une bataille mémoriale entre la France et l'Algérie. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous filmez? Qu'est-ce que vous filmez pas?
Je vois les Français qui sont là, qui sont toujours là et qui s'en vont, mais les Algériens qui retournent aussi, parce qu'ils ont plus de travail, ils ont pas de travail. C'est le bordel partout. Il y a des luttes entre telle wilaya contre une autre wilaya. Il y a des luttes entre les gens de l'intérieur qui ont lutté et ceux qui arrivent de Tunisie. C'est le bordel intégral. Mais en même temps, moi j'ai filmé pour les Algériens, par exemple, les filles qui sortent de prison en France. Elles rêvaient toutes, elles disaient « ça y est, on est libre, on a fait des choses, on va faire des études et tout ». Et je les vois rentrer dans des maisons, on ne peut plus les voir. Donc je me rends bien compte que ce n'est pas rose l'Algérie. Et d'ailleurs, le film, il n'est pas rose.
Oui. Marceline, encore une question. Vous signez finalement le manifeste des 121? Vous êtes dedans?
C'est moi qui ai fait signer Jean-Paul Sartre. La rencontre entre Jean-Paul Sartre, qui s'était fâché avec Francis Janson, elle a eu lieu chez moi.
Il faut dire là qu'il est publié le 6 septembre 60 dans le magazine Vérité et Liberté et qu'il sort d'un groupe dit les Amis de rue Saint-Benoît au nom de la rue où habite Margaret Duras. Dans ce groupe, il y a aussi Maurice Blanchot, Edgar Morin, Robert Dantelme, Maurice Nadeau. Ils ont tous quitté le Parti communiste en 1956, et vous, Marceline, plus tôt?
Oui, plus tôt, mais entraînant derrière des mouvements d'opposition, quoi.
Marceline, avec Edgar Morin, il y a autre chose qui vous lie.
Oui.
Chronique d'un été.
Ouais.
Filmé en été 60.
C'est, oui, 59-60, oui. Ouais.
Par Edgar Morin et Jean Rouch.
Oui.
Vous, Marceline, interviewez des Parisiens lambda sur la façon dont ils
Pourquoi vous dites lambda? Je déteste ce mot.
Bon, des Parisiens.
Des Parisiens. On n'est pas lambda.
C'est vrai, vous avez tout à fait raison.
C'est l'élite qui dit que
vous
les
savez
lambda.
Quoi, Marceline, Loridan, Evans, je déteste ce mot aussi.
Bah, merci. Voilà. Non, bah, d'accord.
Donc, vous les interviewez sur la façon dont ils se débrouillent dans la vie.
Je leur pose seulement la question, êtes-vous heureux?
Voilà.
À une époque où je ne le suis pas du tout.
Je trouve que, quel culot quand même, quel chutzpah de la part d'une survivante de poser cette question.
Je ne me suis pas rendu compte sur le coup.
Incroyable.
J'étais tellement heureuse de pouvoir connaître ce que c'était que le cinéma, que ça m'importait plus que le reste.
Mais j'aimerais bien vous parler d'une séquence qui m'a bouleversée dans ce film et qui lui donne, selon moi, toute son humanité. C'est évidemment la séquence où vous vous adressez à votre père.
Oui. En fait, cette séquence, elle devait être tournée dans les décors d'un film qui était sur la place de la Concorde, qui avait été mis en place pour rendre compte de l'occupation allemande, qui s'appelait « Le jour le plus long ». Et ça m'avait, l'idée me plaisait d'être dans cette France occupée que j'avais traversée. Et malheureusement, quand nous sommes arrivés sur la place de la Concorde, le décor avait été enlevé dans la nuit. Donc je suis toujours quand même sur la place de la Concorde avec la même idée et je leur dis, je ne veux pas que vous soyez près de moi, je veux vous donner l'appareil, le Nagra, c'est moi qui ferai le son, vous serez loin de moi. Et donc, c'est comme ça que cette séquence a été tournée. Moi, je prenais le son pour moi-même, sur la place de la Concorde et sous le pavillon Baltard, qui n'existe plus aujourd'hui à Paris, qui était superbe, les pavillons des Halles hein, qui ont été supprimés pour faire ces horreurs qu'ils ont fait à la place, dans le Marais, autour du Marais. Et non, plutôt le Forum des Halles. et là, tout d'un coup, par hasard, vous savez, les hasards du cinéma sont tellement exceptionnels, je crée, sans l'avoir voulu et sans que les réalisateurs l'aient voulu, un type de séquence qui n'a jamais existé. C'est-à-dire un son totalement prêt, alors que la silhouette est lointaine. Qui est devenue une des séquences les plus importantes de ce film, par sa configuration elle-même, inattendue, et très célèbre de ce fait. Et donc, voilà, c'était une sorte de réminiscence, je parlais à mon père, comme dans mon dernier film, il y a une séquence d'Anouk Aimé qui parle aussi à son père, parce que la mort de mon père a tué totalement une famille, a conduit deux enfants au suicide et a détruit une cellule familiale qui avait une certaine cohérence pour les enfants qui la composaient et qui en avaient besoin pour survivre après la guerre. Voilà, donc je me suis saisie de ça, c'est Edgar Morin qui m'a proposé d'être dedans pour ce que je représentais de l'après-guerre, c'est-à-dire quelqu'un qui revenait du pire des endroits, à un moment où on n'en parlait pas tellement, où il y avait juste nuit et brouillard qui était faux. On ne se rendait même pas compte que c'était faux historiquement, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour qu'en France, on comprenne que les résistants étaient dans des camps de concentration et les juifs, ils étaient dans des camps d'extermination. Et quelquefois, le même camp d'extermination était aussi un camp de concentration pour certains. Et que certains, par exemple, à Auschwitz, recevaient des colis, mais pas les juifs. Vous comprenez la différence?
Oui. Marceline, je reviens au film.
Oui, lequel?
Chronique d'un été.
Ah bon, d'accord.
Il remporte le prix de la critique internationale à Cannes en 1961.
Oui.
Vous y allez. entre...
Je demande entre à Sophia parties. Loren si elle est heureuse.
Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit?
Elle me dit oui.
Et vous, Marceline, à l'époque, non?
Non. Je suis même interviewée sur le procès Eichmann à ce moment-là.
Vous dites...
Je dis que la mort de Eichmann ne change rien à la cause.
Vous dites une fois que le bonheur après Auschwitz vous semble, dans votre quotidien, pendant très très longtemps, risible.
Mais le bonheur, c'est très compliqué. Le bonheur, c'est... Bien sûr. Le bonheur, c'est une notion... Il y a le bonheur, il y a le malheur, il y a l'entre-deux, il y a à vivre, il y a apprendre à vivre, il y a apprendre à se construire. Il faut de nombreuses années suivant la vie qu'on a eue.
N'empêche que grâce à ce film, ou par le biais du cinéma en tout cas...
Oui, que je commence à travailler dans le cinéma.
Et puis que vous rencontrez votre futur mari.
Oui, bien sûr.
Parce que vous, une fois de retour...
Ah oui, mais je rentre d'Algérie. Je prends avec Jean-Pierre, on engage une petite qui ne sait pas monter. On est totalement, on n'a aucune familiarité avec le travail de cinéma. Et j'assiste à une projection d'un film qui s'appelle Valparaiso, fait par Yoris Evans, qui est un chef-d'œuvre. Et spontanément, je vais voir cet homme que je ne connais pas du tout pour lui demander de l'aide, pour lui demander des conseils. À ce moment-là, je ne sais pas qu'il a déjà parlé avec Rouge, qui pourrait tomber amoureux de moi.
Vous voulez que je vous dise verbatim ce que vous dites et lui?
Ouais.
Parce que je vous relis, contrairement
à vous. En prie.
Alors, vous dites... Si je fais du cinéma, je veux faire des films comme celui-là.
Oui, mais ça, c'est dans les années 50.
Valparaiso. Après avoir vu Valparaiso.
Non. Je vais vous expliquer.
Oui.
Moi, dans les années 50, je vais tout le temps à la cinémathèque.
Oui.
Moi, je fais partie de cette génération qui a appris le cinéma en allant voir des films. J'ai jamais fait d'école de cinéma. Et comme ça, j'ai rencontré aussi des garçons et des filles qui faisaient l'IDEC. Et je voyais énormément de films. Et un jour, j'ai vu Terre d'Espagne. Et je me suis dit, si je vois un film comme... Si je peux faire du cinéma, c'est le cinéma que je voudrais faire.
Oui.
C'est tout, mais c'est bien des années avant que je répéterai plus tard à Yoris, bien sûr.
Et lui dit à Jean Rouge, donc, peut-être c'est faux aussi...
Non, c'est vrai.
Cette fille, si je la rencontre, je pourrais tomber amoureux d'elle.
Oui, voilà.
Alors, le rencontre.
Alors, la rencontre, elle se fait à ce moment-là, à la fin du film Valparaiso. Mais Yoris Evans me dit, je suis seulement de passage, mais adressez-vous à mon monteur. Il me donne le téléphone du monteur, et effectivement, c'est lui qui montera ce film. Et donc, il me demande mon adresse, je lui donne mon adresse en toute innocence, et je reçois un énorme bouquet de fleurs. Et puis, pendant plusieurs mois, j'ai aucune nouvelle de lui, puisque c'est un homme... que tout le monde appelait à l'époque le Hollandais volant, parce qu'il était internationalement connu, ayant fait des films à travers le monde et sur toutes les luttes déjà. Et un jour, je vais voir une exposition de photos dans le quartier ici, je crois que c'était même à l'Institut de Géographie, mais je ne suis pas sûre, et il était là. Et donc, il m'a invité à dîner et on ne s'est plus jamais quitté. C'est comme ça que ça s'est passé.
Et vous dites qu'avec Yoris, une autre vie commence. Et parlons de cette autre vie maintenant.
Oui, non, mais alors, je continue à travailler à la télévision, à des émissions comme 16 millions de jeunes, Zoom. On est toujours séparés. Il va ci, il va là, il va là. Et puis un jour, c'est la guerre du Vietnam, et il me dit, écoute, on en a marre tous les deux d'être séparés, tu vas venir avec moi. Alors, j'abandonne mon métier pour le suivre. Voilà.
Donc vous partez en 67 à Hanoï.
Il y avait déjà été une première fois en 65.
Oui, ça j'ai bien noté. Je fais mes travaux pratiques.
Oui.
J'ai noté qu'il a tourné deux films sur le Vietnam, Le Ciel...
Le ciel, la terre, qui est un très beau film.
75, et Loin de Vietnam en 67.
Et puis nous, on a fait un montage ici avec, comment il s'appelle, Gatti. 12 heures pour le Vietnam, c'est nous qui avons monté le film pour les 12 heures pour le Vietnam. Alors, qui a eu lieu à la mutualité.
Marceline, pourquoi alors réalise-t-il, ou vous deux plutôt, encore un film sur le Vietnam?
Parce que ce premier film, c'est un film plutôt un cri de ce qui se passe. Et moi, je dis, il faut faire un film beaucoup plus en profondeur sur la vie des gens, dans la guerre. Qu'est-ce que c'est de vivre dans la guerre? Et donc, on décide d'aller à l'endroit le plus interdit, le plus dangereux, puisque les attaques viennent du ciel, de la mer et de la terre. Et c'est-à-dire des avions, des bateaux et des tirs au canon, du sud vers le nord. Et nous demandons d'aller au point clé, le plus dangereux, pour filmer. Et à ce moment-là, comme je suis toujours habillée très, très bien, très parisienne, après les camps, on a toujours envie d'être plutôt belle que moche. et coquet. Et moi, je ne supporte pas la poussière, par exemple. Pareil. Et donc, on décide d'aller au 17e parallèle. Mais pour les Vietnamiens, j'ai l'air trop parisienne, je ne pourrais pas supporter. Je porte des talons hauts, c'est insupportable.
Et là, vous avez, Marceline, Loridan Evans, une anecdote formidable. Vous essayez de convaincre le premier ministre de Vietnam du Nord de vous laisser aller donc à la 17e parallèle.
Au 17e parallèle, oui.
Et puis dans le palais,
dans le jardin du gouvernement,
il y a un petit ampli en deux sur une canne portant une grande barbe.
Oui.
Alors racontez cette histoire.
Alors tout d'un coup arrive un petit monsieur, pas beaucoup plus grand que moi, voilà, comme ça, plié en deux avec sa canne, qui s'approche de nous pendant que nous discutons avec le Premier ministre Phan Van Dung. Et alors je dis, il nous demande comment ça va, voilà.
Et qui ne veut pas vous laisser partir donc.
Oui, je dis, Monsieur Phan Van Dung, il ne veut pas que j'aille au 17e parallèle. C'est l'été, il voit mon bras, je suis bras nu, il voit que j'ai un numéro de matricule sur le bras.
Le vieux.
Oui, le vieux, oui. C'est-à-dire Ho Chi Minh.
C'était Ho Chi Minh. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il dit?
Et puis, il dit, ah, t'as été à Auschwitz, toi? Ben, j'ai dit oui. Et là-bas, ils t'ont pas cramé? C'est exactement le mot qu'il a dit. Ah ben, j'ai dit non, ils m'ont pas cramé. Et ben, il dit, dans mon pays, t'as le droit d'aller où tu veux. Tu iras au 17e parallèle.
Donc,
finalement, d'abord, entre-temps, j'ai filmé les bombardements à Haïphong, j'ai filmé sans Yoris les bombardements dans Hanoï, et puis on part au 17e parallèle, mais c'est très compliqué, on est quatre jeeps, avec un agra dont j'ai appris à savoir comment l'utiliser par un journaliste anglais, qui est là, qui laisse son matériel aux Vietnamiens, et qui laisse également une Ariflex, une caméra allemande, mais pour qu'elle fasse pas de bruit, puisque c'est l'ancien modèle, on part avec un blimp qui cache la caméra, qui pèse 50 kilos. C'est-à-dire, on part extrêmement chargé. Et les pellicules, c'était de la pellicule noir et blanc, on a utilisé de la pellicule japonaise, française, américaine, allemande de l'Est, allemande de l'Ouest. On a fait de briques et de broc ce qu'on pouvait pour faire ce film. Et quand je suis revenue, il y avait un ingénieur du son qui s'appelait Antoine Bonfranti. Il n'avait jamais entendu des aussi bons sons de la guerre.
Et dites-moi, Marceline, vous vivez là-bas terré?
Sous la terre.
Oui.
Non, on vit d'abord un premier bombardement terrible sur nous, où nos valises sont perclues de bombes à billes, où un de nos opérateurs est blessé par une bombe à billes, où on a failli mourir parce qu'on avait réussi à descendre dans un trou plus grand juste avant pendant le bombardement. Et quand on revient vers le lit où nous dormions, enfin le lit, soi-disant lit dans la terre, hein, tout était détruit, c'est-à-dire. Et c'est là où je commence à penser, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je suis devenue?
Ça vous rappelle?
Faire ici, ça me rappelle les bombardements en France, des cauchemars qui reviennent. Et Yoris me dit, écoute, je ne peux pas t'obliger à rester ici. Si tu veux, tu peux rentrer en France.
Vous dites aussi
et j'ai dit non.
Vous dites aussi en même temps, et là je vous cite, que vous avez trouvé une beauté étrange aux fusées éclairantes et que vous avez un sentiment d'exaltation face à ce danger.
Quand je vis effectivement la période des fusées éclairantes, beaucoup plus au sud, et je vois le film Apocalypse Now en France, où les intellectuels français critiquent ce film en disant c'est trop beau pour être vrai. Et moi, je défends ce film parce que je sais que c'était beau. C'est dans ce sens que je le dis. C'est pas comme ça que je trouve beau la guerre. C'est pas vrai.
Marceline, est-ce que vous voulez savoir, je trouvais un nouvel obs de l'époque.
Pardon?
Je trouvais un nouvel obs de l'époque. La critique d'un nouvel obs de l'époque. Et je veux vous lire le résumé de cette critique.
Oui.
La 17e parallèle n'est pas un film de guerre. C'est un film sur des paysans obligés à la guerre.
Oui, absolument.
Merci Marceline Loridan-Evans.
Vous retrouverez demain la suite de cet entretien enregistré en 2012 entre Guy Lalustiger et Marceline Loridan-Evans, disparue en septembre dernier. À voix nue. Réalisation Anne-Pascale Desvignes, prise de son Yves Lehorse, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.